session de théologie.
La parole de Dieu à Rimont par le Père Philippe le 31 octobre 1992, cinquième cours.
Fatigué. Quatre conférences, plus encore une, ça fait cinq. Je sais pas, moi j'ai pas pu tâter votre pouls pour savoir si vous étiez pas un peu fiévreux, philosophiquement parlant. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Il n'y a pas beaucoup de réponses, hein. De toute façon, je ferai une très courte conférence. Parce que je trouve que c'est un peu beaucoup, moi, cinq conférences par jour. Il y a de quoi tuer les gens. Est-ce que vous avez une question à poser? Sur un sujet particulier, moi, j'ai envie de parler de tout ça. Dites, vous avez un sujet.
La parole des saints.
Hein?
La parole des saints.
Dans quel sens? Parce que la parole de Saint Jean.
Comment est-ce que l'Esprit Saint nous parle par les saints?
Ah, ça c'est différent, c'est pas la parole des saints. L'Esprit Saint nous parle par les saints, puisque dès qu'un saint est canonisé, le Saint-Père agit avec son pouvoir, son autorité plus exactement. De ce point pontif, c'est infaillible, on n'avait pas le droit de discuter. Donc ils sont des témoins visibles, dans le sens le plus fort. Leur vie devient un témoignage. Je ne dis pas toute leur vie, ni toutes leurs paroles. C'est pas parce qu'un saint est canonisé qu'on considère que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a dit, est nécessairement dans le sens de l'Église. C'est très curieux, hein? À ce point que, vous voyez, je sais des cas particuliers où on a voulu d'abord regarder tous les écrits. J'en ai dit non, c'est impossible. Et on a dit on peut canoniser indépendamment des écrits. Si les écrits, évidemment, ne disent pas des choses qui sont trop en opposition vis-à-vis de la doctrine de l'Église, mais si c'est des écrits un peu sur des sujets qui ne sont pas très, très nets. Vous voyez, Maximien Kolb a dit des choses qui sont très délicates, qui sont très belles, et qui sont assez délicates au point de vue proprement théologique. On l'a canonisé comme martyr, pas comme docteur. Allez. Alors, grâce à Dieu, il y a la foule des autres saints non canonisés dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes tous des saints non canonisés, donc on fait partie de la fête de la Toussaint. Et les saints, mais il faut bien distinguer, hein. Je crois que ça fait partie justement du mystère de tout ça. Il faut bien distinguer la révélation officielle, terminée avec les épîtres qui nous sont données et avec l'évangile de Saint Jean. Puisque l'évangile de Saint Jean est le dernier écrit, ou l'Apocalypse, hein, ça importe peu, puisque tous les deux sont Saint Jean, ou l'Apocalypse, qui serait le dernier écrit révélé officiellement. Les paroles des Sainte Marguerite Marie, puisque on est tout proche d'elle, ici, il faut la citer ce soir, Sainte Marguerite Marie. Ces paroles qui sont des paroles qu'on peut dire inspirées, je crois. Mais ce n'est pas la révélation. Les paroles des saints de Jean, ils sont sous la conduite de l'Esprit Saint. Leur parole et leur inspiration n'est pas reçue dans la foi. reçus comme des signes qui m'aident à mieux comprendre l'écriture. Et je dois tout le temps revenir à l'écriture, c'est-à-dire au livre canonique, au livre inspiré. Et c'est par là que les écrits de la petite Thérèse, de la grande sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, de tous les saints, quoi. Les écrits de Marthe, ce que Marthe a pu dire, ça ne peut pas servir directement comme une inspiration sur laquelle vous appuyez. C'est un signe, comme les miracles. Ce sont des signes pour nous réveiller. Mais on doit revenir à l'Évangile, ou à l'Apocalypse, ou à tout ce qui est révélé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est très important, ça. C'est très important de bien comprendre ça pour que notre foi demeure une foi théologale. Oui, ça peut aider notre dévotion, les révélations privées, les paroles de Marie dans les diverses apparitions. Oui. C'est pas un nouvel évangile. C'est pas l'évangile de Marie. Non. C'est des paroles que Marie dit à ceux qu'elle a choisis et qu'elle a aimés. Elle le dit aussi pour nous. C'est très bien. Je comprends très bien qu'on puisse s'en servir. Mais il faut comprendre que ce n'est pas directement une nourriture de la foi. Je crois que ça, c'est très important pour nous. Surtout dans des moments un peu agités et un peu troubles, comme les nôtres. Quand même, l'Église est assez secouée, on le sait bien. Doctrinalement, elle est assez secouée. Et on voit des séparations, comme Monseigneur Lefebvre quittant l'Église. Et la suite avec... Croyez tous qu'avec sa mort, ça allait arrêter. Tout ça continue. Et une fois qu'elle a continué, maintenant, il n'y a plus de raison que ça cesse. Sauf l'Esprit Saint peut faire rentrer dans le bercail tous ceux qui sont les brebis égarés. On voit très bien combien, actuellement, l'Église est très secouée. Bon, quand l'Église est secouée, et quand il y a des moments comme ça, on se précipite un tout petit peu sur les révélations droite et gauche. Vous m'avez dit qu'il y a un prêtre qui vient du Canada. C'est pas parce qu'il vient du Canada, mais il pourrait venir d'autre part aussi, qui se présente comme un prophète. Un nouvel Élie, disant le Christ reviendra à telle date. Alors dès qu'on dit ça, c'est fichu. On sait bien que c'est pas ça. Qu'on se prépare au retour du Christ. Très bien, toute l'Écriture nous le demande. Qu'il reviendra bientôt, l'Apocalypse dit. Alors il faut dire comme Marthe, le bientôt de Dieu n'est pas notre bientôt. Ce qui est tout à fait juste. Là, la parole de Dieu est notre parole à nous. Alors, c'est autre chose. Ben, qu'on se prépare au retour du Christ, ça fait partie essentiel de notre espérance chrétienne. Mais la date, puisqu'il dit que le Fils de l'homme ne la sait pas, ça m'étonnerait qu'un prophète puisse dire qu'il la sait. Tous les gens que j'ai rencontrés depuis déjà assez longtemps, qui donnaient des dates du retour du Christ, ces dates sont passées. Et le Christ n'est pas revenu. Sente que c'est toujours mauvais signe, ça. Mais c'est vrai que les apparitions de la Vierge Marie se multiplient. Ça ne veut pas dire parce qu'elles se multiplient qu'elles ne sont pas authentiques. Et ces apparitions doivent être pour nous des signes pour nous réveiller. Ça, c'est notre prudence éclairée par la foi et transformé par la charité, qui doit recevoir ça comme des signes. Mais il ne faut surtout pas bâtir une théologie là-dessus. Laissez Père Laurentin s'en occuper. C'est très bien qu'il y ait un théologien qui s'en occupe, qui devienne spécialiste de ça. C'est pas très bon, du reste, d'être spécialiste des apparitions. Je crois pas, c'est pas fait pour ça. Je crois pas que les apparitions doivent mobiliser un théologien. Parce que c'est beaucoup plus les théologiens de l'endroit. Vous voyez, l'autorité, c'est l'évêque du lieu. Et au fond, c'est l'évêque qui demande à des théologiens. Peuvent demander au Père Laurentin, évidemment. Mais, vous voyez, pauvre Père Laurentin, actuellement, il court partout, à droite et à gauche, dès qu'il y a une apparition, immédiatement. Mais, alors, on devient le spécialiste des apparitions. Le théologien n'est jamais un spécialiste. Alors, on risque à ce moment-là de tomber dans un point de vue beaucoup plus psychologique, humain. Regardez la tension de celui qui est en état d'apparition pour voir si c'est normal ou pas normal. Tout ça, c'est très humain. Les apparitions sont faites pour. Alors, nous fêtons la Toussaint et ceux qui ont entendu l'évangile de demain et qu'ils connaissent ce qu'est la Toussaint, c'est l'évangile des béatitudes. Ce qui montre bien que la sainteté chrétienne a des notes différentes. Une béatitude parfaitement vécue, comme celle de la pauvreté, mène à la sainteté. La béatitude de la douceur mène à la sainteté. Alors, les béatitudes se tiennent, puisqu'ils sont les fruits de fait des dons du Saint-Esprit. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de nous rappeler ça. C'est saint Augustin, le premier qui a fait ça. C'est vieux. Saint Thomas l'a repris à travers toute la tradition. De voir que les béatitudes étaient le fruit des dons du Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle cet ordre que donne saint Augustin, que saint Thomas a repris, et qui pour nous est une chose très belle, parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que la sainteté. Et la parole de Dieu nous est donnée en vue de la sainteté. La parole de Dieu implique un enseignement. La parole de Dieu implique de développer dans notre cœur un amour toujours plus grand. Alors, vous avez... Je prends l'ordre des dons du Saint-Esprit. C'est plus facile à retenir. Parce que c'est organique. Vous avez le don de sagesse. Sagesse, la béatitude des artisans de paix. Bienheureux ceux qui font la paix. Le don d'intelligence. Le Saint-Esprit ne boude pas l'intelligence. Bienheureux les cœurs purs. L'intelligence, vous voyez, donne la pureté du cœur. Le don de science. Bienheureux ceux qui pleurent. Ça paraît curieux, hein? Mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le don de science nous montre que les biens humains, terrestres, qui devraient être des moyens à la sainteté peuvent très bien devenir des idoles. Prenez tout simplement pour nous nos idoles modernes. Nos idoles modernes, c'est c'est par exemple le progrès, le TGV. Enfin, c'est une idole extraordinaire. Il n'y a pas que ça, il y a la fécondation artificielle. Ce sont nos idoles. On ne peut pas toucher. Si on y touche, on est le progrès scientifique, vous voyez, sont des idoles. Alors le don de science nous fait pleurer sur ces idoles, sur ces biens. La science est un bien, la technique est un bien. Et qu'est-ce qu'on en fait comme usage? L'argent est un bien, et ça peut être aussi idole. Le don de science nous fait pleurer sur ce qui devrait être pour nous des moyens d'aller vers Dieu, vers le Christ, et ces moyens deviennent des obstacles. Le don de conseil bienheureux les doux. Le don de conseil bienheureux les doux. Le don de force. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. et de l'exercice de l'humilité. Ça se tient. Il faut les trois pour bien comprendre ce qu'est la petitesse évangélique. La petite voix de la petite Thérèse. C'est cette don de crainte poussée à l'extrême. De façon magnifique, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et c'est très fort pour nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le climat dans lequel nous vivons, ce climat de laïcisation que le Saint-Père ne cesse de dénoncer, ce climat de laïcisation est le fruit des sept grandes idéologies qui sont nées depuis 150 ans. Et ces idéologies athées, je me pose la question, ces idéologies athées sont-elles l'antéchrist? Parce qu'on ne sait pas si l'antéchrist est une personne ou une idéologie. Avec des suppôts qui sont les témoins de cette idéologie et qui sont les propagateurs de ces idéologies. Depuis 150 ans, alors là, point de vue philosophique, vous voyez, depuis 150 ans, est né de notre Europe. De notre Europe. Saint Jean dit que les antéchrists, ils viennent de chez nous. L'Europe a été le lieu premier de la chrétienté. Ce passage extraordinaire des Actes des Apôtres, Pierre qui quitte Jérusalem et qui va à Rome. C'est aussi une chose qu'on doit souvent y penser. Pierre galiléen, hein, qui aime sa Galilée, il quitte Jérusalem, le lieu de la mort du Christ, pour aller à Rome. Vous voyez ce que tous les traditionnalistes du temps devaient dire. Il est fou. Folie de grandeur. Il va à Rome. Alors évidemment, Saul de Tarse, Saint Paul est là pour le pousser, puisqu'il est citoyen romain, lui. Mais c'est quand même quelque chose d'assez inouï de penser ça. Or, vous savez, c'est une chose moi qui m'intéresse, c'est que Jean va à Éphèse, Pierre, Rome. Et à cette époque-là, autant qu'on peut le dire, Éphèse était la grande ville de l'art. Et une ville presque aussi importante que Rome, selon certains historiens. Presque aussi importante. En qualité plus importante. Rome, c'était la ville romaine, l'organisation. Tandis qu'au contraire, Éphèse, je ne dis pas que c'était le désordre, mais c'était l'art. Vous savez bien qu'à Éphèse, actuellement, c'est là où il y a encore le plus de, au point de vue archéologique, le plus de ruines en importance de la Grèce. C'est assez étonnant. Et d'autre part, les sept églises de l'Apocalypse, il n'y a plus rien. Et Rome continue. C'est quand même très intéressant de voir Pierre et Jean. Parce qu'ils ont un rôle très complémentaire. Et pour nous, c'est important parce que on sait très bien que le problème de l'orthodoxie et de l'Église catholique se repose maintenant avec une force étonnante. Parce que la hiérarchie orthodoxe est très humiliée dans des quantités de pays de l'Est parce qu'elle avait plus ou moins pactisé selon des intentions qui peut-être étaient très bonnes, mais et maintenant, c'est rude. Et les jeunes, j'en ai rencontré plus. plusieurs de jeunes Russes convertis, me disant ouvertement, pour nous, le problème de l'orthodoxie des catholiques, c'est un vieux problème. Ça ne signifie plus rien. On doit faire l'unité. Les jeunes convertis, orthodoxes, du moins baptisés orthodoxes, et qui sont de fait de famille orthodoxe, veulent l'unité. De façon très très forte. La hiérarchie, non. Donc le problème est complètement inversé qu'avant. Et comme toujours, le peuple va l'emporter. Et je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. C'est quand même très important. C'est pour ça que le problème du filioque pour nous est quand même quelque chose de très important. Si j'ai le temps demain, on en dira un petit mot, parce que c'est quand même très important. C'est pas immédiatement révélé. C'est quand même révélé, puisque c'est dans le concile. Mais c'est pas immédiatement dans la révélation écrite. Bien que c'est impliqué, je crois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces sept grandes idéologies athées sont des anti-béatitudes. Et la synthèse de tout ça, la secte de l'âge nouveau, c'est comme une synthèse de tout ça. Une espèce de mélange. C'est la soupe du samedi soir. Pas ce soir, mais... Bon, on a mis tous les restes. Alors on fait c'est une espèce de soupe à laquelle il y a des cornichons, des tout ce que vous voulez, tout ce qu'on n'a pas entièrement assimilé et dévoré. Alors c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors, je mets en parallèle, sans développer, et ça m'a beaucoup frappé, vous voyez, j'ai dû étudier les idéologies athées en tant que philosophe. Puisque j'avais comme le problème principal que je devais étudier quand j'enseignais à Fribourg, c'était comment le philosophe regarde-t-il le mystère de Dieu. Et c'est le problème le plus intéressant de la philosophie, hein. C'est évident. Alors ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir ce que j'appelle le ski de printemps en Suisse. Au printemps, en Suisse, on fait le tour de la Suisse par les sommets. Le père Maréchal avait fait un livre intéressant, Le point de départ de la métaphysique. Et on n'a pas fait les sommets de la pensée philosophique. Et je crois ça très intéressant de faire les sommets de la pensée philosophique. Voilà. Quels sont les philosophes qui cherchent le sommet et qui rejoignent les traditions religieuses qui parlent de Dieu. Quels sont les philosophes, au contraire, qui s'opposent et qui nient Dieu? Alors, il y a un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de notre philosophie européenne. Ce sont ces idéologies athées qui sont nées de l'Europe. Et ça, c'est unique. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la pensée. Les philosophes étaient plutôt ceux qui cherchaient la vérité, et donc qui cherchaient l'absolu, en l'appelant de noms différents. Les stoïciens, par exemple, proclament la grandeur de Zeus. Ils l'acclament. Platon proclame que l'absolu, c'est le bien en soi, le beau en soi, l'homme. Aristote dit que c'est l'acte pur, la pensée de la pensée. Et puis, on voit, depuis 150 ans, 160 ans, ces idéologies athées qui nient Dieu pour exalter l'homme. Alors, je prends par le bas l'antithèse du don de crainte, espèce une autre crainte. C'est la philosophie de Sartre. C'est la grimace de la béatitude des pauvres. C'est l'angoisse. C'est la philosophie de l'angoisse. Et du reste, Sartre est mort dans l'angoisse. Je connaissais des amis de Sartre qui le connaissaient très bien. Et il m'avait dit, est-ce que vous voudriez aller auprès de Sartre? Parce que quand même, il est assez malade. C'est peut-être bien d'y aller. Alors je lui ai dit, écoutez, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Du reste, je n'avais pas cherché à le rencontrer. C'est comme vous pensez. Puis ils ont réfléchi. Puis ils ont dit, ah non. Ça lui fera trop peur de voir un curé. Parce qu'il a de ces frousses des curés. Des frousses maladives. Hein. Il se mettait à trembler tous ses membres quand il voyait un curé. Oui, l'antithèse de la béatitude des pauvres. Chez Sartre, la négation est prônée comme ce qu'il y a de premier. Miséricorde, vous voyez bien, la praxis de Marx. C'est la miséricorde, c'est les prolétaires. Don de piété, c'est très curieux. Don de force, Nietzsche. L'athéisme, l'idéologie athée de Nietzsche. La volonté de puissance. Le don de conseil. C'est la position de l'évolutionnisme pris comme absolu. La seule chose qu'on demande à quelqu'un, c'est de s'adapter. On dit aujourd'hui s'intégrer. Vous intégrez avec le démon, c'est vous intégrez, le tout c'est s'intégrer. Mais la béatitude des tout, c'est faussement tout. Faut pas heurter, faut surtout pas. Alors, c'est au fond une caricature de la vraie douceur. Ça c'est le don de conseil. Le don de science, la caricature, c'est le positivisme d'Auguste Comte. C'est très curieux. Vous voyez, c'est la science exaltée au-dessus de tout. La béatitude des cœurs purs, donc le don d'intelligence. C'est le néo-hégélianisme tel qu'on le voit chez un Brunschvig. Vous savez, Brunschvig dit qu'il n'est pas athée. Et quand on lui demande qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous, Brunschvig dit, c'est l'équation différentielle. Là, vous voyez, comme Dieu, c'est fameux. C'est un être de raison, quoi. Parce que il cite à ce moment-là le prologue de Saint Jean. Le Verbe est la lumière. Rien n'est plus lumineux que la connaissance mathématique. Et donc la connaissance mathématique poussée à l'extrême, et avec son idole, l'équation différentielle, alors à ce moment-là, on est en face de l'idéologie athée. C'est un positivisme au carré. Et dans sagesse, Freud. Puisque le don de sagesse met en nous la paix. Et la paix, c'est de se mettre en conformité avec la volonté du Père. Pour Freud, c'est le retour sur soi, c'est le moi qui vous donne la paix. Les caricatures des pacifiques. Ça, c'est étonnant. Hein. Il faut y réfléchir là-dessus pour ceux qui étudient un peu ces idéologies athées, parce que c'est un fruit, justement, de former comme une espèce de religion. On ne rejette pas la religion, vous savez, Auguste Comte, ne rejetez pas la religion. Il disait, l'homme religieux, c'est celui qui est serviteur des hommes. À la place d'être serviteur de Dieu, c'est d'être serviteur des hommes. C'est ça l'attitude religieuse. Et enfin, je crois que dans cette secte du Nouvel Âge, c'est bien ça. On veut promettre aux hommes le bonheur. Donc on enlève toutes les petites difficultés le plus qu'on peut. Et on fait un équilibre dans l'immanence absolue.
Sous
hegélienne. Pas directement Hegel, puisque Hegel se disait Dieu au terme. Mais pas de la même façon. Il ne niait pas Dieu. Il l'absorbait. Tandis que les autres le nient et se mettent à la place.
théologie, la parole de Dieu par le Père Philippe à Rimont, le 1er novembre 1992, premier cours.
Alors, bonne fête à vous, tous les saints du royaume de Dieu, soit en herbe et quand même réellement. Pouvez-vous expliquer ceci? Si je peux saisir la raison de la parole humaine, la raison, comprenez la quiétité, ce qu'est la parole humaine, sa quiétité particulière, la transmission de la signification des choses connues. Je ne peux pas saisir la raison de la parole divine. Dites ceci, je ne peux pas saisir le mode particulier de la raison de la parole divine. Parce que c'est un mode divin. Parce que c'est toute la question d'analogie, vous comprenez? Et c'est le problème de la théologie. J'ai l'expérience de la parole humaine, puisque je parle. Ben, nous parlons tous. Et le silence nous fait comprendre ce que c'est que la parole. Nous pouvons préciser ce qu'est la parole. Dieu se sert de la parole humaine. Donc, la raison de la parole humaine est présente dans la parole divine. Mais la parole divine, grâce à l'inspiration, est transformée du dedans, passe de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel, et donc a un mode divin qui m'échappe. Et c'est ce mode divin de la parole divine qui reste parole. Où se trouve le mystère de la parole divine. Alors, si je veux préciser, je vous ai dit hier, et ça c'est très délicat à bien préciser, mais il faut aller jusque-là, autrement, on ne va pas. Je vous ai dit hier, cette affirmation de saint Thomas, moi, qui m'a toujours beaucoup frappé, que je crois très juste. Il n'y a pas de concept nouveau pour la foi. S'il y avait un concept nouveau, il y aurait une parole nouvelle, un langage nouveau, divin. Il y aurait une langue divine des enfants de Dieu. Est-ce qu'on voudrait tout le temps? On voudrait, voyez, chanter sous l'inspiration de l'Esprit Saint sans comprendre. C'est l'Esprit Saint. Il y a un silence divin intérieur. Mais il n'y a pas de parole divine. Mais au sens rigoureux, ça c'est quand même très important ça. Alors, est-ce que au point de vue charismatique, est-ce que Dieu permet qu'il y ait un langage du Saint-Esprit? Je mets un point d'interrogation. Parmi les dons du Saint-Esprit, oui, une louange divine, au-delà de la signification de la parole, serait charismatique. Ce ne serait pas de grâce sanctifiante. C'est intéressant de préciser ces choses-là. Il faut quand même les préciser, il faut quand même les regarder en face, au point de vue théologique, dans la grande théologie des charismes. Il y a le sermo sapientiae, qui est le premier des charismes, qui est le charisme le plus important. C'est de pouvoir transmettre avec suffisamment de clarté, les silences intérieurs, secrets, qui nous unissent à Dieu. Quand Saint Jean de la Croix chante en poète les flammes d'amour, il y a un cerveau sapientiel, il y a un charisme particulier qui transmet l'union profonde avec Dieu. C'est un cerveau sapientiel. C'est charismatique. C'est pour telle ou telle personne et pour ses carmélites et maintenant pour toute l'Église et donc pour nous qui nous transmet les flammes d'amour. Et ceci est vrai pour tous les mystiques. Il y a un cerveau sapientiel. Et c'est justement, je ne repose pas ma théologie sur les charismes, mais sur la parole de Dieu. Les charismes, je l'ai dit hier, ce sont des signes qui nous réveillent. Lire vive flamme d'amour, ça vous réveille. Normalement, si vous êtes capable d'être réveillé. N'est-ce pas ? Parce qu'il y en a qui dorment tellement et qui sont tellement somnambules de la vie divine qu'on a beau chanter vive flamme d'amour. Complètement étranger. Mais si on a un peu la foi vivante et qu'on cherche à aimer Dieu, vive flamme d'amour nous réveille. Alors, pas de concept, mais une adhésion nouvelle. Et c'est pour ça que c'est une transadhésion au mystère de Dieu qui se révèle à nous. Le Père se révèle à nous comme Père. Ego genuité. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Cette parole du psaume que toute la tradition a considérée comme nous livrant, nous révélant le mystère de la génération éternelle du Fils. Quand j'y adhère, j'adhère au mystère de la paternité du Père à l'égard du Verbe. C'est trans-adhésion. Et c'est une adhésion nouvelle. Donc un jugement nouveau dans une énonciation qui se sert de mots dont je connais la signification humaine. Ego, genuité. Je connais ces trois aspects. Ego, moi, je t'ai genoui, je t'ai engendré. Rien d'extraordinaire et je peux réfléchir philosophiquement, théologiquement sur cette affirmation égo-génuité. Il y a adhésion à un mystère qui m'échappe totalement. Donc, le mode du jugement d'existence ceci est tout nouveau, puisque l'exister pour le croyant, ce qui existe pour le croyant, en premier lieu, c'est cette génération éternelle du Verbe. Tout repose sur cette génération éternelle du Verbe, pour le croyant, de foi chrétienne, puisque c'est par le Verbe que Dieu a tout créé. Et donc, voir l'origine éternelle du Verbe me donne un jugement d'existence tout à fait nouveau, dont je n'ai aucune évidence. Mais c'est absolument certain, une certitude la plus grande qui soit dans cette adhésion de foi. Et je complète cette adhésion de foi en voyant comment le Verbe de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, avec le Père et dans l'unité avec le Père, est source de l'Esprit Saint. Alors quand je dis trans-adhésion, c'est pour montrer justement ce dépassement de cette adhésion. rapport au jugement d'existence. Donc c'est un trans-jugement d'existence. Un jugement d'existence imminent, au sens le plus fort et le plus élevé que je puisse atteindre. Ego genuité. C'est du reste merveilleux quand on reçoit cette révélation, qu'on y adhère et que l'Esprit Saint nous permet de contempler le mystère. Puisqu'il y a adhésion nouvelle, nécessairement, la signification antérieure à l'énonciation est modifiée. Et c'est justement là où je dis qu'il y a un mode nouveau que je ne saisis pas, dont je n'ai pas le concept, mais qui est présent dans l'adhésion. Je prends l'exemple que nous cherchons ici, la raison de la parole humaine. Je précise la raison de la parole humaine en disant l'intention de transmettre ce que je connais de la réalité, donc du concept. Je transmets le concept. J'ai médité pour vous hier au soir après le cours où je sentais qu'il fallait préciser encore quelque chose. C'est pour ça que c'est très bien de revenir là-dessus. Je comptais revenir. On médite pour mieux préciser ce que d'habitude on ne fait pas beaucoup. On parle tout le temps de la parole de Dieu, parole humaine. On dit très bien, mais si je veux aller jusqu'au bout de la précision théologique, je dis qu'est-ce que c'est que la parole humaine ? La parole humaine, ce n'est pas seulement connaître quelque chose. Ça, c'est la signification de la chose que je porte en moi en formant le fruit d'un concept. J'ai un concept en moi qui me permet de dire « animal ». Parce que nous avons tous ce concept-là. Hein. Quand vous voyez un petit chat « animal », et quand il est gentil, il vous regarde avec, en faisant des petites mines, comme il est gentil ce petit animal. Ou un petit chien, ça dépend ce que vous aimez le mieux. Mais vous découvrez le concept « animal », d'un concept humain que nous avons tous, générique. Et ce concept, je le porte en moi. Je peux parler de l'animal. Je peux transmettre ce concept à quelqu'un avec l'intention de le transmettre. Et je le transmets toujours à travers une proposition. Donc, ce n'est pas le concept lui-même qui est transmissible. Celui-là, il est au-dedans de moi. Il est transmissible par l'énonciation. C'est par l'énonciation, donc par un jugement, qu'il est transmissible. Ça, c'est aussi très important à souligner. Le concept comme tel n'est pas transmissible. Oui, c'est la perle que je conçois au plus intime de mon intelligence et je le transmets par l'énonciation, par la proposition. Ce chat est délicieux. Ce chat est un animal extraordinaire. Je comprends comment les païens ont dit que le chat était divin. Je comprends moins bien de la vache, mais là, du chat, il est extraordinaire, cet animal. Il a l'air d'être intelligent et de jouer des tours. Et quand il joue avec la souris, je dis, il joue étonnamment. Et peut-être qu'il joue avec moi comme si j'étais une souris. C'est possible. J'ai peut-être une intelligence bien supérieure à la mienne. Vous voyez, je transmets ce que je conçois imaginativement, avec des mythes, avec des symboles. Je transmets là-dessus. Je peux faire un petit poème sur le chat. Et je fais ce petit poème pour vous le transmettre. Et ce poème chat vous met en présence de ce petit minet délicieux, extraordinaire. Et quand vous voyez un chat réel, je le vois à travers ce poème. Je soit autrement. Transposé, il y a un poème divin. Puisque saint Augustin nous dit que toute la révélation, c'est une musique divine. Et que toute la Bible, c'est un orchestre étonnant. Il y a des instruments multiples et divers, et chaque auteur inspiré a un instrument. Il y a des flûtes, il y a des grosses caisses, et puis il y a le tambour, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Et tous les instruments nouveaux permettent de mieux comprendre tous les instruments divins. Vous voyez, et si on avait suffisamment d'intelligence de la parole de Dieu, on verrait que la Bible, qui nous parle tout le temps de Dieu, nous fait découvrir toutes les facettes de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est tout-puissant, Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est infini. Et pour exprimer chacune de ces facettes de Dieu, Dieu s'est choisi un instrument particulier. Et le dernier instrument qu'il s'est choisi, c'est Jean. Alors je ne sais pas si c'est la flûte divine, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que ce n'est pas seulement un instrument intelligent. C'est saint Thomas qui dit ça, que Dieu demande aux prophètes une bonne intelligence. Ça, c'est aussi très beau que ça. Voilà ce que Dieu demande aux prophètes, il faut qu'il ait une bonne intelligence. À Jean, il demande une bonne intelligence et un cœur tendre, le disciple bien-aimé. Ah, c'est la flûte du disciple bien-aimé qui peut chanter le mystère du Verbe. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça se termine comme ça. Alors, il y a une lumière nouvelle. Dieu qui se révèle directement ou en se servant d'un instrument, peu importe. C'est Dieu qui se révèle. C'est la vérité première qui se révèle. Et qui me donne une lumière nouvelle. Qui me permet, grâce à cette lumière, d'avoir un nouveau jugement d'existence. Ego genuité. Moi, je t'ai engendré. C'est quand même extraordinaire d'entendre cela. D'entendre ce mystère éternel. De la génération du Verbe, de la génération du Fils bien-aimé. Il nous communique cela. Et nous le recevons dans la foi, grâce à cette lumière divine qu'est la foi. La foi nous donne cette lumière qui nous permet de recevoir la révélation, qui nous permet un poste récepteur de Dieu qui nous communique manière unique et personnelle, sa propre lumière. Toute parole divine est vérité, toute parole de divine est lumière, puisque le Verbe est présent dans cette parole divine. Et nous recevons cette lumière qui nous donne un nouveau jugement d'existence. Nous adhérons dans l'obscurité de la foi. Grâce à la lumière de la foi, nous adhérons à l'obscurité du mystère. Parce que nous voulons y adhérer. Parce que Dieu a mis en nous un amour pour la vérité. Et la vérité qui vient de lui. Une vérité révélée. Nous avons une totale confiance en Dieu qui nous conduit. Et grâce à cette totale confiance, grâce à l'amour que nous avons, cette totale confiance, nous pouvons adhérer. Le commencement de la foi, c'est la pia affectio, c'est-à-dire un amour qui incline notre intelligence à être réceptive de la parole de Dieu. Cette adhésion nouvelle se sert du langage humain révélé de la parole de Dieu. Qui assume le langage humain et qui donne à ce langage humain une capacité d'adhérer au mystère sans donner une nouvelle signification, mais en ouvrant la signification humaine à l'infini. Alors nous précisons ça en langage théologique. La signification, la raison de la parole humaine est présente dans la parole divine. Et le mode de cette parole est tout à fait nouveau, puisqu'il permet d'adhérer à un mystère révélé. Donc on passe de la ratio au modus. Ça, c'est très technique, hein. C'est l'analogie. L'analogie nous permet de saisir ce qu'il y a de commun entre parole de Dieu, parole de l'homme. Il y a quelque chose de commun, c'est que j'exprime par la ratio. Et il y a deux modes différents. Un mode divin, un mode humain. Le mode humain me montre la complexité de la parole humaine. La parole humaine est aussi complexe que la complexité de l'homme, puisque c'est le propre de l'homme de parler. Et donc la complexité de l'être humain qui implique une âme et un corps, je retrouve la même complexité dans la parole. L'âme de la parole, c'est la signification. Et la complexité, le corps de la parole, c'est la manière particulière dont cette parole est enveloppée d'une foi, d'une imagination symbolique, mythique, avec la complexité du milieu dans lequel je suis, l'attention à telle personne, toute la complexité du mode humain, complexité qui est le comportement particulier, le comment de la parole humaine. Le pos en grec, le comment d'avoir lui, c'est toute cette complexité, c'est son mode. Et la raison profonde, c'est de communiquer la connaissance que j'ai d'une réalité. La parole de Dieu. Dieu aurait pu, je fais toujours ça comme hypothèse. C'est intéressant de temps en temps de faire des hypothèses pour mieux comprendre la réalité. Vous savez bien, c'est le petit vol gratuit, l'hypothèse. On tourne autour. Dieu aurait pu illuminer directement mon cœur, sans parole. Mais quand quelqu'un dit « j'ai eu l'expérience de Dieu », impossible de traduire. Venez. Quand le père Marie de Ratisbonne, le frère d'Alphonse de Ratisbonne, ce juif converti à Rome par la Vierge Marie, son frère priait depuis 37 ans pour sa conversion. Il entre dans une église, ce qu'il n'avait jamais fait, et puis va directement auprès d'une statue de Marie, puis reste là. Et en sortant, il dit, je l'ai vu. Dis quoi ? Je l'ai vu. C'est tout. Il n'explique pas. Un regard nouveau, une lumière nouvelle, qui change tout. Chez tous les convertis, vous avez ça. Il y a un passage. On est tous des convertis, hein. Mais il y a des convertis charismatiquement, ils ont été secoués parce qu'ils n'auraient pas pu se convertir autrement. Alors il fallait les secouer, les mettre en bas. Alors ça y est, à partir de là, ils rebondissent. Tandis qu'il y a d'autres qui sont convertis tout doucement, suavitaires, dès le berceau, suavitaires. Le Saint-Esprit s'est fait berceau du petit enfant, alors c'est très très doux, il ne dégringole pas. Et alors il pousse. Puis tout d'un coup, il prend conscience. Mais oui, je suis un converti. Parce qu'en moi, il y a le vieil homme. Et le vieil homme, il en pousse de temps en temps. Je dois le couper un tout petit peu tous les jours pour que le converti qui est en moi puisse pousser. Alors, Dieu, de fait, aurait pu uniquement chacun des individus nous traiter comme les anges. Il n'y a pas d'église angélique au sens propre, sauf au plan surnaturel. Et au point de vue humain, les anges sont tous des ermites. Sans ermitage. Ils sont tous des ermites. Tu aurais pu très bien nous traiter comme ça. Tu as voulu autrement. Il a voulu nous sauver en se servant de la parole humaine. Comme le Verbe est devenu chair, c'est une incarnation, comme le Verbe est devenu homme, nature humaine, la parole de Dieu assume la parole humaine. En réalité, je ne dis pas la parole de Dieu, je dirais la révélation de Dieu. C'est-à-dire, la lumière divine qui m'est communiquée assume la parole humaine, et devient parole divine. Assume cette parole humaine pour lui donner une nouvelle lumière. Mais Dieu n'apporte pas un langage nouveau. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Pourquoi exactement? Comme le Verbe, en devenant chair, aurait pu prendre un visage de cyclope. Pourquoi pas? Un œil. Aurait pu prendre un corps très très différent de cyclope, de tous les mythes, vous savez, de l'homme poisson. J'aurais pu. Pourquoi pas? Tous ces mythes ont une signification. C'est que l'homme veut dépasser l'homme. Alors on rêve tout ça. Vous voyez, l'homme assume tous les hivers, assume tous les poissons. Alors on fait l'homme poisson. Et ça revient aujourd'hui, hein, faut pas oublier, dans l'imagination des savants. Et ils voient si ces mythes peuvent se réaliser. Et ils font des essais. C'est affolant, mais c'est comme ça. C'est un retour en arrière pour voir si c'est tout ça est juste. Et au fond, c'est qu'il y a dans l'homme une soif de dépasser l'homme. Or, Dieu a voulu s'incarner dans un tout petit enfant qui soit l'enfant de la femme. Et non pas dans un cyclope. Il a voulu s'incarner dans une nature humaine semblable à nous. Vous voyez, la lumière divine qui se révèle se sert de la parole des hommes. C'est le même mystère. Et Jésus, qui est homme, il est Dieu. Il existe d'une existence divine. Cette parole humaine assumée par la lumière divine de la révélation devient parole de Dieu. Il y a une adhésion d'exister, l'exister nous, exactement comme pour le Christ. Il existe divinement dans le Verbe. Il subsiste dans le Verbe. La nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe. Union hypostatique. Alors je pourrais dire que la parole humaine subsiste, comprenez bien, hein, entre guillemets, subsiste dans la lumière divine de la révélation. Le Verbe est présent dans toute parole divine. Alors ne chosifiez pas, hein, parce que c'est une parole, donc c'est quelque chose qui se transmet. donc selon un mode particulier de présence du Verbe de Dieu dans la parole divine. Mais il y a une présence du Verbe. Il y a une présence de la lumière de Dieu à travers la parole humaine. Analogue, j'ai dit analogue, donc c'est tout à fait différent, mais il y a quelque chose de semblable au mystère de l'incarnation. Tous les pères de l'Église ont senti ça. De façon plus ou moins, mais ils ont toujours senti ça, que la révélation conduit au mystère du Verbe incarné. Et donc c'est le mystère du Verbe incarné qui éclaire la parole de Dieu. Si je veux vraiment saisir la raison de la parole divine, je regarde le mystère d'incarnation. Or, dans le mystère d'incarnation, le Verbe assume la nature humaine. Et fait que cette nature humaine subsiste personnellement dans le Verbe, qu'elle a une nouvelle existence divine, qui fait que les gestes du Christ, les paroles du Christ, sont des paroles de l'homme-Dieu. Jésus n'a pas inventé une nouvelle langue. Il a pris la langue de sa mère. Il a pris la langue de son milieu. Il aurait pu prendre une langue humano-divine. Non. Et toutes les paroles de Jésus sont des paroles de l'homme-Dieu. Et donc ont une valeur unique. Et Marie l'a reçue comme ça. Ça, c'est la foi de Marie. Elle était tout près de la source. Et toutes les paroles de Jésus ont une valeur. Vous voyez, une transe. Une trans-adhésion et par le fait même une signification qui est bien la signification de la parole humaine mais selon un mode nouveau qui conduit à l'adhésion nouvelle. Donc, dans la parole de Dieu, je retrouve la parole humaine. La raison de la parole humaine est la même. Elle est la même, comprenons bien, en tant que raison. Et elle existe, elle existe. Elle est dans un mode nouveau, qui est le mode de la parole de Dieu, qui s'ouvre au mystère, qui adhère au mystère. Le point de départ de la lumière, de la révélation, c'est la vérité première se révélant. Le terme de l'adhésion de foi, c'est le mystère de Dieu qui se donne à moi. C'est pour ça que le terme de l'adhésion de foi, c'est à la fois la lumière et l'Esprit Saint et l'amour. Toute parole divine s'achève dans l'amour. Verbum spirant amorem. C'est le Verbe qui spire l'amour. Et toute parole divine conduit à l'amour. Donc le terme de la parole divine, c'est de mettre dans mon cœur un amour divin. Parce que c'est une parole de l'époux, c'est une parole de l'ami, qui s'achève dans la présence et dans le silence. J'espère que comme ça vous voyez mieux. Mais n'oubliez pas que l'explication que je vous donne est à l'intérieur du mystère. Donc je ne supprime pas le mystère, mais j'essaie de faire l'analogie avec la parole humaine. Et si je prends l'analogie avec la parole humaine, je saisis mieux où est le mystère. Le propre de la théologie, c'est de supprimer toute imagination romantique. Parce que les croyants sont toujours un peu romantiques, comme les vieux bretons. N'est-ce pas ? Ils sont toujours un peu romantiques. Il y a la mer, l'océan, et le désert, les hallucinations. Il y a toujours quelque chose d'un peu de romantique. Il y a toujours un petit roman en nous. Mais on avance pour purifier ce roman, faire que ce roman progressivement se purifie et qu'on adhère au mystère directement. Sans le prisme du roman. C'est ça la purification démonstration active de la théologie. La théologie purifie la parole de Dieu. Alors que s'il n'y a pas la théologie, je romance sur la parole de Dieu. Surtout quand il s'agit du cantique des cantiques. Alors je fais un petit roman du cantique des cantiques. Je fais des petits romans sur la parole de Dieu. Parce que comme je ne saisis pas le terme, et je sais que c'est infiniment grand, alors je peux dire des tas de choses. La purification de la théologie, c'est de saisir la raison propre que j'ai dans l'expérience humaine. Je saisis le mode proprement humain de cette raison. Et je dépasse ce mode humain pour saisir le mode divin. Pour adhérer au mode divin. Si sur ce point, il y a encore quelque chose à préciser, dites-le moi. Et si ça, sur le moment même, on se tait, mais peut-être après, on se réveille. Alors s'il y a des difficultés, parce que c'est capital, tout est là. Là, je résume exactement au plan théologique ce qu'est la parole divine. Et vous voyez, c'est pas satisfaisant, hein, j'en suis sûr. Mais ça nous aide. La théologie n'est jamais satisfaisante. Jamais. Croire que la théologie est satisfaisante, ce n'est plus la théologie. C'est supprimer le mystère. La théologie se réalise dans la foi. À la différence de la philosophie qui se réalise à partir de l'expérience humaine. Le philosophe revient toujours à l'expérience et au jugement d'existence. Le théologien revient toujours à l'adhésion de foi, qui se fait en se servant de la parole de Dieu. Le mode particulier de mon adhésion de foi, c'est se servir de la parole de Dieu. Alors, autre question. Vous avez hier parlé, pour la parole de Dieu, de transsignification. Ceci, j'ai dit transadhésion, plus exactement. Et la transadhésion peut impliquer une transsignification, c'est-à-dire une signification qui est la même, mais dont je ne connais pas ce qu'il y a de propre dans cette signification. Mais la parole humaine que l'Esprit Saint a choisie a-t-elle une forme, des caractéristiques particulières comme telle, en dehors du fait qu'elle soit inspirée? Oui, elle garde. Quand je dis moi, je t'ai engendré, ça a une signification humaine, ça. C'est évident. Et cette signification humaine, l'Esprit Saint s'en sert pour lui donner une nouvelle adhésion, une transsignification qui dépasse. Et cette signification propre de la parole humaine transformée par la lumière de l'inspiration échappe. Donc, est-ce que la parole humaine que l'Esprit Saint a choisie a-t-elle une forme, des caractéristiques particulières comme telle, en dehors du fait qu'elle soit inspirée par rapport à toute autre parole humaine pour pouvoir porter cette transsignification? Pensez au mystère de l'incarnation. La nature humaine du Christ qui existe grâce au Verbe de Dieu, qui existe dans le Verbe de Dieu, est-elle encore une nature humaine? C'est la même question. Et la nature humaine de Christ est une nature humaine. Jésus avait deux yeux. Il n'est pas le cyclope. Jésus avait des mains. Jésus avait un corps organique comme le nôtre. C'est vraiment la nature humaine. Doit-elle être raisonnable? Doit-elle être nécessairement analogique? Ou est-elle du fait même qu'elle est révélée, même si elle semble univoque? L'exemple, le Christ voyez bien la réponse. La parole humaine a sa signification propre, qui déjà est analogique. Puisque dès que je veux penser au plan philosophique, il n'y a pas un langage propre à la philosophie. C'est le langage de tout le monde. Et dès que je pense au niveau philosophique, je dépasse le stade de l'expérience pure. Je dépasse le stade d'un langage uniquement univoque et utilitaire. Le langage du marché, du commerce. C'est sûr. Déjà, pour un poète, c'est la même chose. Je me sers du langage de tout le monde, mais je donne à ce langage une valeur symbolique qui est différente, mais qui est analogiquement la même. Il y a quelque chose de commun. Je n'ai pas un langage poétique propre au poète. Le poète se sert du langage humain. Le philosophe se sert du langage courant. Mais il donne à ce langage une signification nouvelle, analogique. L'Esprit Saint se sert par l'inspiration, directement ou en se servant d'un instrument du langage humain, et donne à ce langage humain une trans-signification qui me dépasse complètement. Une trans-adhésion qui me dépasse complètement. C'est analogiquement la signification de la parole humaine ordinaire. Alors, j'espère que ça vous saisissez. Alors, évidemment, je précise pour ceux qui ne savent pas suffisamment ce que c'est que l'analogie, parce que tout est là. Hein. Si on creusait le problème, on verrait que il y a deux manières de penser, d'une manière analogique et d'une manière dialectique. Et je crois que tout se ramène à ça. Aristote, Hegel. Aristote pense analogiquement et c'est lui qui le premier a précisé ça et saint Thomas a suivi. Et Hegel a pris un langage dialectique. Après Hegel, on s'est servi de la dialectique. Aujourd'hui, tout le monde se sert de la dialectique. Et l'analogie disparaît. C'est comme la grande victoire de la dialectique, Hegel. Alors, quelle différence y a-t-il entre un langage analogique et un langage dialectique? Entre une manière de penser analogique. C'est dans la diversité saisir ce qu'il y a de commun. Tandis que le langage dialectique, c'est opposer les manières différentes d'exister et de considérer que l'opposition fait jaillir quelque chose de nouveau. Le fameux principe d'Héraclite, la guerre est le père de toute chose. C'est la grande béatitude